solution climat.
C'est chaud, on réclame un peu de pluie pour adoucir la température. La chaleur nous étouffe, les intempéries font ravage. Et on continuera de subir, tant qu'on pensera que le réchauffement climatique est un mythe.
Nos fumées pâlissent l'arc-en-ciel. Il n'y a qu'à soulever la tête. Le ciel n'est plus qu'un hôpital dont les astres sont malades. Les oiseaux volent aux aguets, de peur de se prendre un hypercute de fumée. Toutes nos rivières sont coulées en béton, et c'est ça qu'on appelle modernisation.
Alors levons-nous tous, la planète est en danger. On n'est pas des super-héros, c'est vrai, mais on peut la sauver. Il suffit juste d'adopter des comportements écolos, comme par exemple moins de voitures et plus de vélos.
Solution climat, votre magazine de l'environnement sur Radio de la Paix. Ghislain Koulibaly.
Aujourd'hui, nous allons vous proposer des extraits sonores d'un temps d'échange sur l'environnement, plus précisément sur les initiatives prises pour reconstituer le couvert forestier ivoirien, estimé à 2,97 millions d'hectares en 2021 contre 16 millions d'hectares en 1960. La Côte d'Ivoire se retrouve donc avec 9% de couverture forestière contre plus de 20% 60 ans en arrière. Lutte contre la déforestation, conservation de la biodiversité, quelles actions concrètes? C'était le thème du panel organisé le mardi 9 juillet 2024 à l'endroit des journalistes bénéficiaires du projet Terra Africa mis en œuvre par CFI, l'Agence française de développement média. Ce panel a été animé par Renaud Lapeyre, directeur pays de l'ONG internationale NITIDÉ, qui travaille sur la conservation des ressources naturelles et le développement communautaire, et Patrice Adaye, président de AgroMap, spécialisé dans la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes de durabilité sur le terrain, structure installée en Côte d'Ivoire, au Congo, au Ghana et au Cameroun. Commençons avec nos deux intervenants qui font ici l'état des lieux en ce qui concerne la déforestation en Côte d'Ivoire.
La forêt évidemment ivoirienne a été très fortement attaquée depuis les 50 dernières années, puisque au dernier recensement, ce qu'on appelle l'inventaire faunistique et floristique national, l'IFFN, qui a été mené en 2021, si je ne me trompe pas, il a été montré que la forêt était maintenant de 8,9 millions d'hectares, alors que 50 années en arrière, elle était de 16 millions d'hectares. Donc on a perdu énormément de forêts en Côte d'Ivoire, donc on peut quand même dire que cette déforestation, elle est forte en Côte d'Ivoire. On a perdu beaucoup de forêts et que les raisons principales, c'est l'agriculture extensive et l'agriculture en particulier les cultures de rente. On sait que le cacao, on sait que l'EVA, le palmier à l'huile, mais aussi l'exploitation forestière non régulée ont participé de cette déforestation. On pense par exemple, il y a eu des estimations qui disent que 25% du cacao ivoirien, c'est-à-dire du cacao qui est exporté, du cacao qui est produit en Côte d'Ivoire, provient d'aires protégées. Il provient de forêts classées, il provient de parcs nationaux. Donc on voit que c'est un quart de la production ivoirienne qui provient même d'aires protégées, c'est-à-dire de forêts qui devraient être protégées et qui devraient donner lieu à une conservation forte. Voilà, donc déforestation forte et raison majeure que sont cacao, EVA, palmier à huile, culture de rente, urbanisation évidemment, mais aussi exploitation forestière dérégulée.
Okay. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Patrice Adaye. Alors, pour répondre à votre question, je pense que la déforestation aujourd'hui n'est plus à présenter parce que il y a très longtemps de cela que nous parlons de 16 millions, on est venu à 3 millions. Mais sur cette base, les politiques publiques, je dirais l'État de Côte d'Ivoire, ne sont pas restés insensibles à cette question. Parce que, comme vous le savez, la forêt et l'agriculture doivent être conciliées. Donc, je prends le cas du ministère de l'Environnement. Depuis 2012, le ministère de l'Environnement est engagé dans le mécanisme REDD+. Le mécanisme REDD+, c'est le mécanisme de réduction des émissions qui est donc mis en œuvre, où l'État essaie vraiment d'identifier les causes profondes de la déforestation. Et aujourd'hui, avec l'accord de Paris sur l'article 6, il y a aussi la rédaction du rapport qu'on appelle les contributions nationales déterminées au niveau de tous les secteurs. Comme vous le savez, les causes de la déforestation, ce n'est pas lié simplement au secteur forêt, mais c'est nos besoins. Et donc, dans tous les secteurs, énergie, transport, tous les secteurs, on a identifié donc quels sont les facteurs d'émission. Comment nous faisons en sorte que nous puissions réduire nos émissions, notre empreinte carbone? Donc, ça a été évalué. Et aujourd'hui, le montant évalué, c'est 11 000 milliards. Et donc, on a besoin de financement. Donc, je vais revenir sur les enjeux. Et quand, lorsque vous prenez aussi le ministère des Eaux et Forêts, qui gère les forêts, il y a la politique qui a été élaborée, la stratégie nationale de préservation et de réhabilitation d'extension des forêts, qui vise à identifier vraiment l'ensemble des besoins que nous devons mettre en œuvre pour qu'on puisse restaurer notre forêt, les forêts classées, les forêts du domaine rural. Et cette stratégie a été évaluée à 616 milliards. Donc vous imaginez, les montants sont énormes et les enjeux. Et pour le secteur privé, l'État de Côte d'Ivoire aussi a essayé de mobiliser le secteur privé. Vous avez déjà l'initiative Cacao et Forêt qui regroupe l'ensemble des chocolatiers. Et chaque chocolatier doit prendre des engagements à l'effet de pouvoir donc réduire la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc ça, ce mécanisme est déjà là et on sent donc la mobilisation. L'enjeu aujourd'hui, c'est le financement. Tout à l'heure, je parle de beaucoup de milliards. Est-ce que l'État seul est capable de pouvoir financer cette politique? C'est la problématique qui se pose. Comment on fait en sorte que les forêts qui sont aujourd'hui le poumon et qui sont donc des ressources pour les communautés, nous arrivons à faire en sorte que les communautés eux-mêmes s'approprient de la restauration. Comme vous le savez, nous tous, nous sommes communautés. On a nos parents dans les villages, on utilise la forêt. Comment est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire en sorte que chacun s'approprie de la forêt? C'est là la problématique.
Et voilà, on écoutait Patrice Adaye et bien avant Renaud Lapeyre. Patrice Adaye est président de AgroMap et Renaud Lapeyre, directeur pays de Nitidé, qui nous ont présenté le paysage forestier en Côte d'Ivoire, marqué par la déforestation due en grande partie à l'agriculture intensive et à l'exploitation forestière non régulée. On va rester avec Patrice Adaye qui nous parle des actions entreprises sur le terrain.
Aujourd'hui, je pense que les solutions marchent, mais il faut, ça nécessite de être renforcé. Nous, pour notre activité, c'est 25 millions d'arbres que nous avons donc produits. Donc vous imaginez que les politiques, l'État initie des politiques et le secteur privé comme les opérateurs, nous sommes là pour mettre en œuvre. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, notre rôle, c'est d'utiliser les politiques publiques et de voir comment nous traduisons donc ces politiques publiques sur le terrain. Et il va falloir, au fur et à mesure que nous mettons en œuvre, on revienne pour voir les contraintes qui sont liées à la mise en œuvre de cette politique. Bien évidemment qu'il y a des contraintes. La première contrainte, le foncier, parce que qui est propriétaire de la terre? Les gens veulent investir. Donc, 25 millions d'arbres que nous avons donc produits en 6 ans, vous imaginez la dynamique et la prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Nous travaillons avec beaucoup de chocolatiers. Et on a planté plus de 2 millions d'arbres. Et aujourd'hui, nous sommes engagés avec le ministère des Eaux et Forêts sur un projet de restauration de 104 000 hectares pour bénéficier donc du crédit carbone. Donc vous imaginez que les politiques publiques, les instruments que l'État de Côte d'Ivoire a mis en œuvre et l'appel au secteur privé pour aider l'État à mettre en œuvre, en train de se mettre en œuvre. Certes, je ne dis pas que tout est parfait, mais il faut mettre en œuvre et au fur et à mesure travailler à ce que les choses s'améliorent sur le terrain. Aujourd'hui, nous, on pense que la stratégie aujourd'hui qui est mise en œuvre, c'est l'ouverture donc au marché carbone. Pourquoi le marché carbone? Peut-être que c'est le deuxième thème, mais on peut engager. Les émissions liées les émissions de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère est due principalement à nos activités de chaque entreprise. Donc, on demande aujourd'hui à chaque entreprise de pouvoir réduire ses empreintes carbone. Et le marché carbone est aujourd'hui l'outil que nous pensons qu'il peut permettre de pouvoir mobiliser l'ensemble du secteur privé et des entreprises. Toutes les entités doit pouvoir réduire les empreintes. Mais d'abord, il va falloir évaluer. Et si vous regardez bien au niveau de l'Europe, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès au financement si vous ne rédigez pas votre stratégie ESG, votre rapport d'impact ESG. Si vous ne démontrez pas que vous ne soutenez pas donc la nature, parce que nos ressources, les banques, l'ensemble de ce que nous utilisons viennent de la nature. Donc on demande à ce que tout le monde s'engage. Et pour nous, si tous les pays ou les entreprises s'engagent dans la réduction de leurs émissions, l'empreinte carbone, ça va créer donc un marché. Et c'est ce marché. Et le crédit carbone, c'est quoi? C'est une quantité, c'est-à-dire que c'est la réduction d'une tonne de CO2. Si vous arrivez à réduire une tonne de CO2, alors équivalent, parce qu'il y a beaucoup de gaz en CO2, et en ce moment qui est certifié par une structure crédible, en ce moment-là, vous bénéficiez donc de ce paiement. Donc, toutes les entreprises peuvent s'engager dans le crédit carbone, ou bien ils essaient de faire la compensation carbone. Ils arrivent à net zéro, vous cherchez, vous arrivez à net zéro. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser 85 milliards de francs CFA pour la forêt classée du Haut-Sassandra, qui est mise en concession, parce que l'État a ouvert donc, la gestion des forêts classées au secteur privé. Donc, c'est le partenariat public-privé. Donc, c'est ces politiques que l'État a mis en place pour dire, voici l'évaluation que j'ai faite. CDN, stratégie des forêts, c'est énorme. Je ne suis pas en mesure de financer sur mon budget propre. Alors, je vais essayer de tendre la main au secteur privé pour faire des concessions. Mais ce n'est pas comme si je cède. C'est comme vous avez votre maison, vous ne pouvez pas construire. Vous faites un deal avec un opérateur sur une durée. Et une fois que lui finit d'exploiter, vous avez votre forêt. Donc, je pense que c'est ce mécanisme de partenariat public-privé qui va permettre vraiment de sauver notre forêt et de pouvoir implémenter des projets sur le terrain.
Le planting d'arbres, l'ouverture au marché carbone sont les initiatives phares menées par AgroMap et qui doivent envisager à une échelle globale avec une forte implication du secteur privé, selon Patrice Adaye, le président. Nous allons écouter maintenant ce que propose l'ONG internationale NITIDE.
Je voulais rappeler un tout petit chiffre qui est sorti aussi de l'IFFN, donc de l'inventaire faunistique et floristique national, qui est vraiment un document extrêmement important que je vous invite à lire, parce qu'il donne énormément d'informations. Ce qui est très intéressant dans ce document, au-delà des 8,9 millions d'hectares de forêts qu'ils ont recensés, c'est aussi de regarder par statut foncier des forêts. Et ce qui montre, c'est que par exemple dans les forêts classées, il y a à peu près une dizaine de pourcents qui sont des forêts. Donc ça veut dire que dans forêt classée, il n'y a que 10% de forêt. C'est là où on voit quand même l'ampleur du problème. Dans des aires protégées, c'est-à-dire les parcs nationaux, que ce soit Thaï, que ce soit Lakomoé, que ce soit Mabiaya, Azani, d'autres, les îles Eotil, c'est 35% de forêt qui reste dans ces aires protégées. Donc on voit là encore qu'on est dans des aires qui sont censées être 100% protégées, sans rien à l'intérieur, qui n'ont plus que 35% de forêt. Et quand on va dans le domaine rural, c'est-à-dire là où habitent les gens, tout ce qui n'est pas forêt classée et tout ce qui n'est pas parcs nationaux, là c'est 6% de forêt qui reste. Donc on voit ici qu'il y a vraiment un sujet à traiter. Donc on a parlé des forêts classées, et là effectivement la société AgroMap est très bien placée pour en parler, et Patrice Adaye en a parlé, c'est comment faire pour reforester, reboiser, protéger, faire agroforesterie dans ces forêts classées. Et là, AgroMap fait évidemment de l'excellent travail. Il y a aussi travaillé sur les aires protégées, comment s'assurer que nos parcs nationaux puissent être très bien protégés et qu'on reste à 35%, voire même qu'on puisse aller au-delà, pas en reboisant, parce qu'on ne va pas reboiser dans une aire protégée, dans un parc national, mais on va faire ce qu'on appelle de la régénération naturelle assistée. C'est-à-dire qu'on va laisser la nature faire. Et il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont sortis récemment pour dire que la nature, en fait, elle reprend très très vite. Et qu'il y a donc même des fois, il vaut mieux ne rien faire plutôt qu'essayer de reboiser. Pas tout le temps, mais certaines fois, on peut le faire. Donc, et après, il y a le domaine rural, essayer de reboiser dans le domaine rural et essayer de protéger ce qui existe encore dans le domaine rural. Parce qu'il reste des endroits, il reste de la forêt dans le domaine rural. Si je vous dis ça, c'est que nous, à NITIDE, on essaye de travailler sur la partie nationaux et sur la partie domaine rural. Et pour faire ça, on a notre projet le plus important aujourd'hui, c'est le projet autour de la réserve naturelle de Mabiaïa, qui est donc à 2 heures, 3 heures de route d'ici d'Abidjan, donc elle n'est pas très connue. Elle a été décrétée réserve naturelle en 2019. Avant ça, c'était des forêts classées, c'était deux forêts classées, c'était la forêt classée de Mabi et la forêt classée de Yaya. Et en 2019, il y a eu un décret ministériel qui a dit on va fusionner ces deux forêts classées Mabi et Yaya et les transformer en réserve naturelle. C'est comme un parc national avec un tout petit peu plus de droits à l'intérieur, c'est un statut différent, mais c'est à peu près la même chose. Donc nous, à Nitidé, on était dans cette région autour de Mabi et de Yaya, on était là depuis 2016. On a fait un premier projet qui s'appelait PRM, projet RED Plus de la Mai, qui était entre 2016 et 2019. Et on a continué ce projet qui s'appelle PRM2, projet, donc c'est la deuxième phase, donc de 2021, et on essaie de continuer 2025 et au-delà avec un PRM3, PRM4. En fait, maintenant c'est un programme, on a plusieurs projets autour de Mabi Yaya. Pour protéger Mabi Yaya, on a une triple approche. Donc, je vous rappelle, hein, l'idée de protéger Mabi Yaya, c'est qu'il faut qu'on soit à 35% minimum ou plus, bien plus. Mabi Yaya, elle est assez bien protégée. Donc on a une triple approche, une approche scientifique. On a fait ce qu'on appelle des cartes d'occupation des sols. AgroMap fait la même chose. Donc on utilise des images satellites, d'accord, pour faire ce qu'on appelle une carte d'occupation des sols, c'est-à-dire qu'à partir des images satellites, qu'on prend généralement au mois de janvier-février, parce que c'est là où il y a le moins de nuages, donc c'est là où on voit le mieux le sol. Et là, on va se demander qu'est-ce que les êtres humains font dans cette région. D'accord ? Et donc, on va réussir, par ce qu'on appelle de la photo-interprétation, à reconnaître là où il y a du cacao, là où il y a de la forêt primaire, là où il y a de la forêt secondaire, là où il y a de l'EVA, là où il y a du palmier, là où il y a des techs, là où il y a des arbres de production. Et là, on crée une carte où il y a plusieurs couleurs. Et par exemple, sur Mabi Yaya, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de forêts primaires dans la forêt de Mabi Yaya, évidemment, mais autour, il y a énormément de violets. Nous, violets, c'est le cacao. Et beaucoup de rouge, de l'EVA. Et on se rend compte aussi que c'est du violet à l'intérieur de la réserve. Donc il y a encore du cacao qui est produit à l'intérieur de la réserve, et il y a même de l'EVA, du rouge, à l'intérieur de la réserve. Donc, je vous disais, notre première approche, elle est scientifique, faire des cartes. On fait des inventaires faunistiques et floristiques à l'intérieur de la réserve, on le fait avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, évidemment. On pose des caméras pièges, donc c'est-à-dire qu'on pose des caméras qui se déclenchent automatiquement au mouvement, et donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais l'année dernière, on a publié en septembre la première vidéo de chimpanzé dans Mabi Yaya. Je n'ai pas dit que c'était la première vidéo de chimpanzé en Côte d'Ivoire, évidemment. Mais on savait qu'il y avait des chimpanzés dans Mabi Yaya. Beaucoup de gens, évidemment, des populations locales, avaient vu des nids, avaient entendu les sons. Mais on n'avait jamais pu les prendre en photo. Donc on a posé une trentaine de caméras pièges avec l'Office ivoirien des parcs et réserves. Et on a réussi, évidemment, sur une, à voir, c'est des vidéos, hein, ce n'est pas des photos, donc à voir des mouvements de chimpanzés. Et on va refaire ça. On a fait aussi des cartes de ce qu'on appelle de biodiversité bêta, donc où on va calculer la diversité biologique dans la réserve, voir où il y a beaucoup de différents types de plantes, où il y a beaucoup de différents types d'espèces fauniques. Donc après, c'est défini avec des couleurs. Donc voilà, première approche, la science. Parce que si vous ne faites pas un bon diagnostic, et Patrice, encore une fois, il l'a dit, il faut faire un bon diagnostic des émissions carbone, sinon on ne peut pas avoir de bonnes solutions. Bon diagnostic, bonne solution, donc première approche scientifique. Après, notre deuxième approche, elle est partenariale. Elle est partenariale parce que nous, Nitidé, on ne fait rien seul. On ne fait rien seul, on est une ONG française, on vient travailler en Côte d'Ivoire. Évidemment qu'on travaille avec les autorités publiques, les autorités gouvernementales, que ça soit au niveau national et que ça soit au niveau régional. Donc on a deux partenaires dans la région de la Mai. Le premier partenaire, c'est l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Je rappelle que l'OIPR, en fait, c'est les mandataires des aires protégées, donc c'est eux qui ont la fonction de protéger le parc national de Taï, le parc national de la Komoé, la réserve naturelle de Mabi Yaya, le Banco, évidemment, les îles Otil et Otilé. Donc, et effectivement, on travaille avec l'OIPR de façon complètement rapprochée. Premièrement, on fait des formations, des renforcements de capacités, où en fait, on travaille avec tous les responsables de cartographie, de SIG, de surveillance, pour leur montrer un certain nombre de techniques que l'on peut utiliser pour mieux diagnostiquer les menaces sur la réserve. On a par exemple travaillé avec eux sur ce que nous on a appelé un bulletin d'alerte, c'est-à-dire qu'on leur a appris comment, avec des images satellites, pouvoir voir où il y a eu des défrichements dans les mois précédents. Donc grâce aux images satellites, les agents de l'OIPR peuvent, avec un logiciel, faire de la cartographie et se dire « Ah, à tel endroit de la forêt de ma Biaya, là j'ai vu qu'il y avait un défrichement. » Ça veut dire quoi un défrichement? Ça veut dire que la photo satellite d'avant, on voyait du vert, on voyait de la canopée, et la photo satellite d'après, c'est-à-dire un mois, deux mois plus tard, on ne voit plus rien. Donc si on ne voit plus rien, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur le terrain. Donc ça, c'est une alerte. On voit un point et on en a plusieurs. Et à partir de là, le directeur du parc peut dire à sa patrouille, eh ben aujourd'hui, vous allez voir tel point, tel point, tel point, et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est du cacao? Est-ce que les gens ont coupé pour prendre le bois? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent encore là-dedans? Et on travaille avec le conseil régional de la Mée. Le conseil régional de la Mée a créé, grâce à la GIZ, donc ce n'est pas une idée, hein, faut évidemment toujours remercier nos partenaires, a créé ce qu'ils appellent une cellule verte. C'est-à-dire que dans le conseil régional, il y a une cellule, qui est encore petite hein, à ce jour, mais il y a une cellule qui en fait s'occupe de tout ce qui est écologique, environnemental au niveau de la région de la Mée. Donc ils font évidemment la surveillance des forêts, ils font la cartographie et ils regardent toutes les initiatives vertes de développement durable. Donc nous, on a fait du renforcement de capacité avec cette cellule verte. On leur a aussi appris tous ces logiciels de cartographie, tous ces logiciels de télédétection par satellite. Donc vraiment, on travaille avec le conseil régional de la Mée. Donc ça, c'est la deuxième approche, je vous l'ai dit, l'approche partenariale. Et la troisième approche qui nous paraît la plus intéressante, mais qui est complémentaire, c'est l'approche communautaire. L'approche communautaire, c'est d'aller directement sur le terrain avec les équipes. Donc on a une équipe d'une vingtaine d'agents autour de Mabiaya. Ces agents, ils habitent dans les villages. Ils n'habitent pas à Zopé, ils n'habitent pas à Lépé, ils habitent dans les villages. Et notre but, c'est finalement de contribuer à ce qu'on appelle faire des mesures riveraines. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, conservation et développement. Nos deux approches, je vous ai dit scientifique et partenariale, ça c'est plutôt dans le parc, avec l'OIPR. Mais maintenant, ça c'est de la conservation. Maintenant, je vous l'ai dit, sans développement local, il ne peut pas y avoir d'acceptation de la réserve. Les populations autour vont toujours vouloir rentrer dans la réserve si elles considèrent qu'on leur a retiré des ressources économiques avec la réserve sans les compenser ou sans leur donner quelque chose. Donc nous, on veut travailler avec ces populations. On travaille avec une vingtaine de villages. On travaille à Bétier, on travaille à Kosonoukro, on travaille à Biébi, on travaille à Yakassé-Komoé, Mbouin, Koutoukro, donc des choses qui sont assez proches d'Abidjan. Et en fait, on travaille sur les aspects, sur trois aspects, et après je finirai là-dessus. Premièrement, l'aspect aménagement du territoire. Dans chaque village où l'on est, on coécrit avec le village ce qu'on appelle un plan de développement local. Un plan de développement local, c'est un document qui est aussi reconnu par le ministère de l'économie, du plan et du développement, qui est en fait la boussole du village. C'est-à-dire qu'on fait un an de discussion avec le village et on leur dit, dans 10 ans, votre village, vous croyez que ça va être quoi? Certains d'entre nous ont dit, dans 10 ans, on veut que notre village soit une commune, par exemple. On veut que ça soit une ville. Donc on travaille avec eux sur le plan de développement local et on travaille avec eux sur une infrastructure sociale de base, que ça soit une classe, que ça soit un dispensaire, que ça soit une maternité, que ça soit un marché couvert. Donc aménagement du territoire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, agriculture. On travaille avec eux sur la réhabilitation de leurs vieilles cacaoyères, parce que ce dont on se rend compte, lutte contre la déforestation, je le redis, c'est qu'il y a beaucoup de cacao autour de la réserve, je vous l'ai dit, on l'a vu par satellite, et que comme c'est l'ancienne boucle du cacao dans l'Est, il y a beaucoup de ces cacaos qui deviennent assez vieux et peu productifs. Au lieu de faire 800, 900 kilos ou 600 kilos, ils font 100, 200, 300 kilos de l'hectare. Le problème, c'est que ces gens, les populations locales, ils disent « je veux abandonner ce champ et je vais rentrer dans la réserve pour couper et faire un nouveau champ ». Et donc nous, on leur dit « arrêtons de faire ça ». Restez sur votre cacaoyère et on va vous aider à la remettre en production, à la régénérer. Donc là, on fait de l'élagage, du récépage, du tronçonnage, bon, des actions de bonne maintenance du champ. Donc, on travaille sur le cacao, on travaille à faire de l'agroforesterie, alors à une bien moins grande échelle évidemment qu'Agromap, on est un plus petit acteur. On fait aussi des formations à l'EVA. On fait aussi du vivrier, on travaille sur le manioc, sur la banane plantain, parce qu'encore une fois, si vous voulez que les gens arrêtent d'aller couper des nouveaux champs de cacao, il faut les fixer avec du vivrier. Et ça, c'est la banane, et ça, c'est le manioc. On fait d'autres choses en agriculture, et on fait aussi de la foresterie privée. Et donc là, je finirai là-dessus pour vous dire, rappelez-vous ma statistique du début, je vous ai dit que dans le domaine rural, il n'y avait plus que 6% de forêt. Nous, notre but, c'est que non seulement, évidemment, on ne descende pas en dessous de 6%, mais qu'en plus, on reboise, on reforeste. Pour reboiser, pour reforester, dans le domaine rural, rappelez-vous que les gens... Alors bien sûr, il y a le problème de l'incertitude foncière, hein, Patrice en a parlé, mais rappelez-vous que maintenant, avec le nouveau code forestier de 2019, les arbres qui sont à l'intérieur des champs des gens sont à eux, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, les gens, c'est leur arbre. Donc normalement, ils ont des incitations à conserver leur arbre, puisque c'est le leur, et s'ils le maintiennent bien, ils peuvent le vendre, ils peuvent le conserver. Donc nous, on travaille avec les gens à faire ce qu'on appelle des plans de gestion forestiers, voir ce qu'ils peuvent faire avec leur forêt, et voir aussi ce qu'ils peuvent faire avec leur plantation de teck, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne maintiennent pas leur plantation de teck. Ils ont juste planté des teck il y a 10 ans, et maintenant, en fait, c'est à peu près n'importe quoi, et leur plantation de teck, elle ne vaut plus rien, parce que c'est tellement dense que les techs, ils ont poussé, mais très très fin. Donc en fait, ils ne sont pas arrivés au niveau minimum pour être vendus. Et en fait, il n'y a plus de valeur. Donc on travaille avec les gens. L'idée ici, c'est que les gens comprennent que la forêt a une valeur, que si elle a une valeur, il faut la maintenir. Exactement, si vous avez votre maison, c'est la vôtre. Vous savez qu'elle a une valeur pour vous, vous la maintenez. Donc c'est exactement la même idée. On essaye de faire ça à côté de la réserve naturelle de Mabiyaya, pour préserver à l'intérieur mais aussi à l'extérieur.
Bienvenue, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez aujourd'hui sujet de discussion qui passe en mode solution climat. Et aujourd'hui, nous mettons en avant les actions et les initiatives menées pour restaurer le couvert forestier ivoirien. Vous avez entendu dans la première partie de l'émission Renaud Lapeyre, directeur pays de l'ONG internationale NITIDÉ, qui travaille sur la conservation des ressources naturelles et le développement communautaire, ainsi que Patrice Adaye, président de AgroMap, une structure spécialisée dans la mise en œuvre des politiques publiques et des programmes de durabilité sur le terrain. Structure installée tant bien en Côte d'Ivoire, au Congo, au Ghana et au Cameroun. Et à présent, nous allons retrouver à nouveau ces deux intervenants, mais cette fois-ci dans la séquence questions-réponses qui donne la parole aux journalistes présents.
Marthe Kakou, bénéficiaire du projet Terra Africa. Je suppose que pour atteindre vos objectifs, il y a des défis à relever et vous êtes confronté à des obstacles, assurément, lesquels pouvez-vous nous partager votre expérience de ce côté-là?
Aujourd'hui, comme tout à l'heure je viens de le dire, l'enjeu il est grand et le défi est énorme. Il va de notre survie parce que sans forêt, je ne pense pas que nous pouvons rester encore un pays agricole. Le premier défi, c'est déjà comment on obtient donc les financements durables. Vous savez, en même temps que il y a donc des enjeux, mais c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire aussi. Comment on obtient donc des financements durables? Il y a des projets qui sont de très courte durée. Et vous savez que lorsque vous voulez investir donc dans la foresterie, ça prend du temps. Déjà, l'arbre met au moins 15 à 20 ans pour que ça soit exploitable. Si vous voulez faire des ébénisseries ou des tables, ça prend 15 ans. Donc, il va falloir financer sur de long terme. Et ça, je pense que les financements que nous obtenons, en général, c'est soit 2 ans, 3 ans, et les partenaires ne vont pas plus loin. Et ça, c'est vraiment un problème. Et cela fait qu'à chaque fois, on revient à la case de départ. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la sécurisation foncière. On a l'insécurité foncière au niveau de nos régions qui font que vous avez du mal à pouvoir contractualiser avec un producteur. Aujourd'hui, si vous investissez, que vous avez un financement même durable, comment dans le milieu rural, vous pouvez garantir qu'il a le foncier, un titre foncier, de sorte à pouvoir contractualiser sur de long terme? Donc, demain, vous plantez avec M. Y, le lendemain, c'est M. Z qui vient pour dire que non, moi, je prends cette parcelle pour faire soit le VIH ou ça ne me rapporte plus. Donc, on a vraiment ces difficultés parce que le foncier est très peu. Donc, je pense que dans les communications, il faudrait qu'on insiste là-dessus pour que comment on fait pour régler la question de la sécurisation foncière. Troisième élément, c'est l'exploitation forestière. À la même période où l'État de Côte d'Ivoire a initié donc ses politiques, ses besoins, on se rend compte que l'exploitation forestière est encore présente sur le terrain. Et donc, qui inhibe en fait l'action que nous sommes en train de faire. D'un côté, on nous demande de planter des arbres et que le corps forestier dit que celui qui plante les arbres, il est propriétaire. Mais de l'autre côté, l'exploitant forestier qui a son périmètre d'exploitation, il continue de d'exploiter et de pouvoir aussi détruire les plantations. Et ça, ça annule les mécanismes de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Parce que si on n'a pas... On ne met pas des actions concrètes pour que le producteur sache que, ou bien la communauté sache qu'effectivement, elle est protégée. Je vous assure qu'on ne peut pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment un élément important que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, on a des financements, mais on n'a pas de terre. Personne n'a de terre. Le corps forestier fait la promotion de la foresterie communautaire, mais vous arrivez dans un village, c'est très difficile de dire, donnez-nous une forêt communautaire, une parcelle communautaire. Soit c'est le chef qui va donner un hectare, mais en réalité, ce n'est pas communautaire, c'est une parcelle individuelle. Et si c'est une parcelle individuelle, lui, son fils qui est Abidjan, peut dire, bon, moi je suis allé à Abidjan, je n'ai pas pu avoir de l'emploi, mais je viens exploiter. En ce moment-là, l'investissement est à perte. Donc ça, c'est vraiment le risque majeur qui se trouve dans la forêt. Le deuxième élément, c'est l'implication des communautés. Je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus, parce que parfois on dit on implique les communautés, mais moi, je pense que c'est la bonne approche, il faut qu'on revoie, parce que ce n'est pas le fait d'aller demander à une communauté, voilà, je vais faire telle chose qui est fondamentale. Parce que la communauté doit pouvoir trouver son intérêt. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir justifier que l'activité que vous mettez, elle a son intérêt, mais la communauté ne va pas s'impliquer. Voilà. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, on peut se retrouver dans la position de communauté parce qu'on a des villages. Les gens nous approchent pour faire des projets, mais en ce moment-là, nous sommes des communautés. Donc, il ne faudrait pas qu'on dissocie les communautés comme des personnes à part entière, mais qui font partie prenante. Nous tous, nous sommes des communautés. Donc, voici un peu de points sur lesquels les obstacles sont énormes. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on fasse des plaidoyers avec notre administration, de sorte, et puis les partenaires financiers, de sorte à ce qu'on arrive à structurer et à mettre en place une bonne gouvernance dans la mise en œuvre des projets.
Et voilà, nous allons refermer ici ce magazine Solutions Climat aujourd'hui qui portait sur l'environnement, mais plus précisément sur les initiatives prises pour reconstituer le couvert forestier ivoirien estimé à 2,97 millions d'hectares en 2021 contre 16 millions d'hectares en 1960. Et cet atelier débat dont vous avez pu suivre des extraits a eu lieu le mardi 9 juillet 2024. C'était un atelier sur les enjeux du changement climatique et la communication avec les médias, et l'atelier a été piloté organisé, mis en œuvre par CFI Média, mais avec le soutien de l'association IDF. Et l'atelier a été suivi de visites de terrain et d'échanges d'expériences avec les acteurs locaux sur l'érosion côtière, la résilience des communautés locales et la conservation de la biodiversité marine en Côte d'Ivoire, respectivement dans les localités de Grand Laou et Grand Bérébi. On reviendra sur ces différents points, des sujets de façon spécifique sur par exemple les aires marines protégées et comment se fait aussi la protection des tortues marines. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus dans les prochains numéros de Solutions Climat. Restez sur Radio de la Paix.
Solutions Climat.
C'est chaud, on réclame un peu de pluie pour adoucir la température. La chaleur nous étouffe, les intempéries font ravage et on continuera de subir tant qu'on pensera que le réchauffement climatique est un mythe.
Nos fumées pâlissent l'arc-en-ciel. Il n'y a qu'à soulever la tête. Le ciel n'est plus qu'un hôpital dont les astres sont malades. Les oiseaux volent aux aguets de peur de se prendre un hypercute de fumée. Toutes nos rivières sont coulées en béton et c'est ça qu'on appelle modernisation.
Alors levons-nous tous, la planète est en danger. On n'est pas des super-héros, c'est vrai, mais on peut la sauver. Il suffit juste d'adopter des comportements écolos, comme par exemple moins de voitures et plus de vélos.
Solution Climat, votre magazine de l'environnement sur Radio de la Paix. Ghislain Koulibaly.